Moi, à la FNAC, il y a 6 ans que je fais des interviews, et puis
Absolument.
pour la petite histoire, il y a quelques dizaines d'années que nous nous connaissons. Je crois qu'on va rentrer dans le vif du sujet avec La vie par-dessus tout. On va vous écouter, Dominique, et vous allez nous lire un premier extrait qui nous met dans le ton de ce qu'est ce récit.
Tout à fait. On vient nous chercher. Alors, je vais préciser d'abord que mon mari était dans la salle de réveil, et c'est là que j'entame le livre. On vient nous chercher pour descendre au sous-sol. Porte bardée de lumière clignotante, d'où surgit parfois un médecin ou une infirmière, les traits tirés. Au-delà de cette frontière, la salle de réveil. « Tu vas bientôt sortir, me dit-on. Je te guette. Je fais le siège devant ce lieu mystérieux, où la vie remonte par paliers, comme un plongeur des profondeurs abyssales, et où les souffles et les intimités se mêlent. À chaque fois que s'ouvrent les battants de la porte, j'espère t'apercevoir. Mon regard glisse vers le sanctuaire où tu es en train de percer ta chrysalide de silence. Te voilà. Je n'y croyais plus. Tu nous repères immédiatement, ta sœur et moi. Dans un sursaut d'énergie, tes doigts esquissent le V de la victoire. Puis ta main retombe, lourde, sur le drap de ton lit que deux infirmiers enfourment dans l'ascenseur. Ta tumeur se développait et squattait ton côlon depuis plus de 6 ans, nous apprend le chirurgien. Ta tumeur, cet enfant de l'ombre nourri de toutes tes émotions refoulées, de tous tes non-dits, n'est-elle pas aussi un cri? Je suis convaincue que la maladie est aussi le miroir d'une disharmonie et l'expression d'une souffrance psychique dont nous n'avons pas conscience ou que nous sommes dans l'incapacité de décoder. Mais voudras-tu seulement plonger au plus profond de toi? Lèveras-tu le voile sur cette douloureuse énigme à laquelle tu es confronté? Toute guérison, pour moi, passe par cette quête du sens. Qu'en penses-tu? Comme tant d'hommes, peut-être as-tu négligé le sensible au profit du rationnel. Je cours te dénicher l'ouvrage du docteur Carl Simonton, « Guérir envers et contre tout », qui insiste en cas de cancer sur la prise en charge de soi-même dans le processus de guérison et qui, pour cela, utilise la technique de l'imagerie mentale et de la visualisation positive. Te voir t'immerger dans ces pages avec autant d'ardeur me soulage, me fait du bien. Ce livre deviendra ta Bible pendant toute la durée de ta maladie. Ta capacité d'ouverture m'émerveille. Pour cette dure traversée, tu disposes de beaucoup d'atouts. Une amie peintre t'offre ce qu'on appelle un carnet chinois, un carnet en accordéon sur lequel tu dessines ton cancer tel que tu le vois. Tu dessines ton combat. Tu dessines l'arc-en-ciel de ta guérison. Exprimer tes émotions te rapproche de toi-même.
Alors on va parler du style et de l'écriture. Ça peut donner l'illusion, quand c'est un livre, que les choses ont été écrites froidement. En fait, il y a un truc littéraire, indépendamment du récit vécu, c'est de faire un peu comme Michel Butor dans La Modification et s'adresser à quelqu'un, en l'occurrence Arlan, hein, puisque c'est de lui qu'il s'agit.
Oui, bien sûr.
Et en utilisant le présent narratif, on est obligé d'avoir une longue réponse sur le fait que ça ne s'est pas écrit sur le moment, alors que ça donne une sensation de vécu dans l'instant, alors qu'il se passe des années avant que le texte puisse ressortir. Parlons du processus littéraire avant de parler peut-être de ce qui s'est passé entre vous, de ce qui s'est passé pour Roland Martin, pour sa femme et pour sortir de la maladie. Du point de vue écriture, un beau matin, vous vous dites « Ok, on va mettre ça par écrit ?»
Pas du tout, non, ça ne s'est pas passé comme ça. J'étais en train de rédiger des nouvelles et j'assistais un soir, c'était en 2007, si je me souviens bien, et j'assistais à un ballet moderne, je me souviens encore, de Dominique Bagouet. Et tout d'un coup, j'ai reçu une sorte de coup de poing énergétique sur le plexus qui m'a dit enfin, qui m'a fait comprendre que je devais écrire ce livre-là. J'y avais jamais songé. Pour moi, la page était tournée. Bon, après, j'ai dit, est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse? Il me semblait avoir traversé tout ça et tiré un trait. Mais en fait, j'ai réalisé qu'il était important pour moi de retraverser ces émotions pour pouvoir les dégager et ensuite passer à autre chose, en fait.
Alors,
et...
L'exercice difficile, je sais qu'il y a un spécialiste, un médecin dans la salle, c'est que l'analyse ou le travail analytique que l'on fait serait sur, au gré des émotions et des enchaînements de ces émotions et des idées. Là, c'est le rapport au temps, c'est chronologique.
Oui.
Parce que la première page, c'est t'es fichu, il faut faire quelque chose. Faut...
Tout à fait.
Alors, comment ça se passe? Ça, la maîtrise entre le fait de revivre ces moments-là et de voir les mettre de manière cartésienne sur le papier. Il y a prise de notes, il faut rester.
Non, absolument pas. Non, alors vous imaginez bien que je n'ai pas eu le temps de prendre des notes pendant cette période.
Et au moment d'écrire? Oui. Au moment de pour reprendre le calendrier.
Ben, c'est-à-dire que j'ai déroulé le fil de la mémoire, en fait, c'est ça.
Est-ce qu'il est authentique ce fil de mémoire, ou est-ce que le filtre des émotions et de l'expérience vécue fait qu'on aurait tendance à masquer une image ou à rajouter la lumière ou à assombrir?
Ça, je peux pas le dire, franchement. Mais en tout cas, j'ai besoin en un premier temps, de coller avec mes émotions. Et puis ensuite, je laisse reposer. De toute façon, donc la distance, elle va venir petit à petit. Donc il me semble pas qu'il y ait beaucoup de procédés. Je plonge.
Mais toujours dans le concret, si on pense au texte d'Arabie Saoudite,
oui.
Qui est un travail, on connaît ni comme une Laurence Deona, on a lu Ella Maillard, on a lu beaucoup d'écrivains voyageurs.
Oui.
Là, à l'époque, c'était écrire quand on est sur place, là c'est pire parce que c'est écrire quand on est dans la maladie, avec la mort en face, la mort de l'autre.
Oui, oui, tout à fait. Mais bon, disons que mon mari était guéri. Enfin, il était en rémission. Donc, j'ai pu, c'était 7 ans plus tard. Donc, vous voyez, j'avais le temps m'a donné cette distance. En fait, c'est le temps qui me l'a donné.
Mais quand on réécrit, c'est pas si léger que ça, parce que
on
se remet dans le flashback.
Absolument. J'ai sous-estimé l'épreuve que ça allait être. Disons, je savais qu'il fallait absolument que je l'écrive. Mais j'ai sous-estimé, effectivement, ça a rouvert des plaies, c'est sûr, hein, c'était très très dur. Finalement, je voulais aussi, ce qui était très important pour moi, c'était aussi de donner un sens à tout ça, et le sens, il vous apparaît souvent après, bien après. Donc c'était important de donner un sens, ça a eu un sens pour mon mari, et ça lui appartient, un sens pour moi et un sens pour le couple, on a l'occasion d'en reparler. Mais je voulais aussi comprendre, je voulais en fait éclairer, si vous voulez, cette matière sombre, c'est-à-dire que je voulais éclairer dans le sens de comprendre et mettre de la lumière dessus. Voilà.
Est-ce que c'est un exercice auquel on doit, nous, assister, parce qu'on est un peu voyeur d'une chose très intime et difficile?
Est-ce que vous pouvez un petit peu répéter votre question, parce que
c'est parfois gênant quand on lit ça, parce
c'est
que
gênant.
Moi je me sens intrusif,
oui.
Dans votre sensibilité, et je me dis pourquoi est-ce qu'elle s'exhibe à ce point-là, puis je me dis non, mais il fallait qu'elle le fasse.
Oui, alors je vais vous expliquer, c'est pas une manière de s'exhiber, c'est une manière de vraiment restituer le vécu de la manière la plus authentique possible. Et je pense que le fait pour moi de se dévoiler permet aussi à l'autre, au lecteur, de se dévoiler et de se mettre davantage en contact avec ses propres émotions. Je veux dire, voilà, c'est ça pour moi.
Avec deux types de lecteurs, ceux qui ont eu la chance de ne jamais vivre cela et qui se disent comment est-ce que je réagirais.
Bien sûr.
Et ceux qui l'ont traversé, qui l'ont mal traversé, on est un petit peu de l'Arsen là, qui l'ont mal traversé, ou bien qui se disent que ce livre peut être un guide.
Un guide, je crois que c'est un... Bon, je ne sais pas si ça peut être un guide,
pas mais... Mode, j'ai bien dit guide, pas mode d'emploi, un guide.
Non, voilà.
Comme le livre est toujours un guide sur son étagère.
Oui, mais je pense que les gens... Bon, c'est vrai que bon, les gens qui sont confrontés à ces situations-là... de toute façon, chacun va réagir avec ses propres ressources, mais il y a des situations qu'on rencontre, qui sont toujours les mêmes, qu'on rencontre dans ce type d'expérience douloureuse.
Pas forcément celle d'écrire, parce que des gens peuvent se séparer, le couple peut exploser après, on peut sombrer dans des paradis artificiels pour ne pas affronter la réalité. Vous écrivez, c'est un réflexe, la petite fille qui réapparaît, vous écrivez un journal intime quand vous étiez gosse?
Non, jamais, j'écrivais dans ma tête, mais ça s'est arrêté là. J'ai pris la plume, j'ai fait des études de lettres, donc j'ai quand même dû prendre la plume à ce moment-là. Oui.
C'est doux, avec un académisme douloureux.
Oui, très très douloureux. Mais pour revenir à votre question, attendez, là j'ai lâché le fil.
Est-ce que c'était un geste naturel d'autodéfense ou de survie d'écrire? Est-ce que le geste est naturel? Vous avez répondu non. Entre-temps, il y a quand même les études de lettres, donc il y a peut-être quelques outils, vous avez un bagage?
Oui, mais je dirais que j'ai l'impression qu'il ne m'a pas tellement servi, ce bagage. C'est-à-dire que je me suis bagarrée avec mes parents parce que mes parents voulaient absolument que je fasse le droit. Et alors ça, je ne le sentais pas du tout, je me sentais beaucoup plus artiste, donc j'ai fait les lettres, mais ça a été douloureux parce que c'était trop académique pour moi. Donc j'aurais souhaité, l'université à ce moment-là, et d'ailleurs je crois encore à l'heure actuelle, forme beaucoup de critiques littéraires et de professeurs. Et moi, ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je me sentais beaucoup plus artiste et il n'y avait pas de séminaire de création littéraire. Il y en a eu un qui a duré une année, puis c'était fini.
La forme s'est imposée d'elle-même, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, pour ceux qui ont lu le livre ou qui le liront, de s'adresser. C'est une lettre à Roland. C'est doublement embêtant. Je reviens toujours à ce poste d'observation que l'on a, puisqu'on a Camus en commun, c'est un peu Morceau qui regarde dans la rue, qui s'ennuie, qui se demande où est-ce que je vais, d'où je viens, et qu'est-ce qu'on va faire, cigarette après cigarette. On est sur le balcon et on observe votre rapport à votre mari. Ça n'arrive que très rarement de pouvoir s'immiscer dans une intimité où vous seul parlez, même si vous le faites parler comme un personnage.
Oui.
Est-ce que vous savez que vous attaquez à ce problème quand vous dites « Ah bon, vous êtes comme ça, tu penses ça, tiens, drôle, moi j'aurais pas fait ça ?»
Au moment où j'ai commencé le livre, vous voulez dire, est-ce que j'étais consciente de tous les pièges?
Oui.
Bon, pour moi, je dirais que le premier piège, déjà, c'était de ne pas tomber dans le pathos, parce que c'était de trouver le ton juste.
Hein, pourtant, le scénario, c'est Love Story, mais qui finit bien.
Bien sûr, oui, puisque mon mari est guéri maintenant,
bien sûr.
Mais je dirais que ça, c'était un grand, grand piège, mais bon, j'ai trouvé assez vite le ton, finalement. Je l'ai trouvé assez vite, ça c'est
pas grave. Je suis en train de la coincer à son propre jeu.
Donc un peu
d'académisme a fait du bien dans la rédaction. On n'a pas parce que normalement, ce récit de vie, ça devrait être troisième personne, peut-être transposé. Rien n'est transposé, c'est bien vous qui écrivez.
Oui, oui.
C'est bien
J'aurais pas pu faire autrement, ça s'est imposé à moi. Le sujet s'est emparé de moi. Et puis après, je fais pas de plan, j'écoute mon intuition, je vais. Puis après, s'il faut, après on taille dans la forêt vierge, ça s'est fait comme ça, je veux dire, je peux pas vraiment trouver une explication académique.
On reviendra
pour chicaner un petit peu.
Oui, bien sûr. On va aller au deuxième extrait, parce que ça permet pour ceux qui ne connaissent pas votre texte de vous entendre et de vous écouter, et de voir que si la maladie avance, la bataille avance également.
Oui, alors j'arrive, voilà. J'ai de bonnes nouvelles de toi. Tu as une belle chambre. Donc ça, là, mon mari est en convalescence au RAS après sa première opération et avant de commencer sa première série de chimio. J'ai de bonnes nouvelles de toi. Tu as une belle chambre, spacieuse, claire, une vue éblouissante. Je me plais à déceler dans cette brillance l'écho d'une luminosité intérieure croissante. Le matin, tu fais de longues marches dans les pâturages. Et chaque jour, tu constates un progrès, plus d'endurance à l'effort, un meilleur souffle. Tu découvres aussi les bonheurs de la sieste. Le livre de Simonton est devenu ton outil de travail. Tu consignes tes réflexions dans un petit carnet noir et tu continues à dessiner dans ton cahier chinois ce que t'inspire ta maladie et la lutte que tu mènes contre elle. Au fil des jours, tu retrouves le contact avec toi-même que la vie professionnelle avait occulté. Ces retrouvailles t'émerveillent. Tu dialogues avec ton enfant intérieur. Enfin, l'occasion t'est donnée de passer du temps avec toi. Mais à quel prix? Doit-on vraiment en arriver là pour se rencontrer soi-même?
Alors, on ne va pas faire d'explication de texte.
Ce serait trop scolaire.
Ça serait un peu trop scolaire. Alors, on va prendre un autre chemin en disant, est-ce que c'est une écriture spécifiquement féminine de se confesser à ce point-là et de dire les choses comme cela sans transposition? Je vais
y revenir plusieurs fois,
puisqu'on est dans un lieu où il y a des livres et que c'est bien un livre que j'ai dans les mains et ce n'est pas des feuilles juste à noter. Vous m'auriez dit, tiens, lisez ça.
Essentiellement féminine, je ne sais pas, parce qu'on a tous... On a tous une part de masculin et de féminin en nous.
En termes de littérature, comment on le définirait, de manière non académique? De s'épancher, c'est ce côté plus...
Peut-être, moi je pense que c'est plus féminin, oui. Mais il y a des hommes qui ont un côté aussi très féminin et qui peuvent s'épancher comme ça. Mais disons, c'est plus rare, c'est vrai. L'homme est plus rationnel.
Oui, parce que vous allez jusqu'au bout du geste, c'est bien imprimé, ça a été tiré.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Ça a été, on en parle,
oui,
ça a été vendu, vous le signez.
Oui.
C'est votre propre interrogation qui inspire la question. Doit-on en arriver là pour se rencontrer soi-même? Là, ça a plusieurs sens. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est cette lutte? Est-ce que c'est cette expérience qu'on ne voudrait pas vivre et que vous êtes obligés de vivre tous les deux?
Oui, non, mais je veux dire, quand je dis doit-on vraiment en arriver là pour se rencontrer soi-même, là, je parle vraiment de mon mari, qui est un homme qui a un grand bureau, enfin, qui a un grand bureau d'architecte, qui est un homme stressé, comme la plupart... des gens, des chefs d'entreprise, donc il a jamais vraiment eu l'occasion de passer du temps avec lui, donc il a réalisé lui-même que cette maladie était malheureusement l'occasion de malheureusement et heureusement l'occasion de passer du temps avec lui, mais il a dû attendre de tomber dans la maladie pour vraiment pouvoir se découvrir un peu plus lui-même.
Vous allez tomber dans la dépression vous-même, la question s'adresse à vous aussi, quand vous dites, doit-on vraiment en arriver là, moi, l'écrivain, oui. Pour se rencontrer soi-même, pour me rencontrer moi, il y a un triangle entre vous deux, la maladie, le livre en tant que tel.
Absolument, mais là, moi, j'ai péché parce que j'étais, si vous voulez, je suis allée dans le piège là aussi, parce que j'étais bien consciente, quand mon mari est tombé malade, que, bon, alors, disons que j'ai toujours quelqu'un qui s'est occupé des autres avant de m'occuper de moi-même. Et quand mon mari est tombé malade, j'étais consciente du danger dans le sens où je venais déjà de m'occuper de ma mère, j'ai accompagné ma mère dans son cancer, j'avais accompagné ma mère 5 ans auparavant. Et là, vraiment, je lui ai consacré 5 ans de mon existence. Donc je me suis dit, tu ne vas pas recommencer. Et c'est mon schéma, si vous voulez, c'est un espèce de conditionnement que j'ai. Et puis en fait, je suis tombée absolument dans le piège, c'est-à-dire que j'ai pensé à l'autre... J'ai négligé mes propres besoins et c'est pour ça que j'avais ma petite voix qui n'arrêtait pas de crier, j'ai pas voulu l'écouter, donc je suis partie en dépression. Bon, il faut dire que c'est assez normal parce que d'un autre côté, bon, il y a eu cette immense émotion à gérer. J'ai repris tout le bureau de mon mari et puis j'ai aussi.
On précise que vous travaillez à ce moment-là depuis quand même quelques années ensemble.
Maintenant c'est terminé, suite à sa maladie, j'ai quitté le bureau, c'était étonnant, donc il y a eu toutes sortes de transformations. Alors je dirais que le thème de la transformation est aussi un thème très important, c'est le fil rouge de tous mes livres. Attendez, je reviens, maintenant j'ai perdu le fil.
On en est toujours dans votre processus d'écriture. Des fois l'académisme a du bon, Dominique.
Je serai incapable de
le processus de l'écriture et de devoir passer par ce point obligé comme un navigateur qui devrait repasser par un point bien précis. Pour Roland, pour votre mari, pour vous-même, sur le moment. Mm-hmm. Et cette propension que vous avez eue, pour la deuxième fois, à vous lancer corps et âme dans la sauvegarde. Vous ne voyez pas en train de dire, écoute, débrouille-toi, tu fais tes chimaux, moi je fais le tour de la
planète. C'est impossible, non, c'est pas possible, je ne peux pas, j'ai quand même une âme de Saint-Bernard. Comme disait une de mes amies qui est présente dans la salle, maintenant, plus de Saint-Bernard, je bois le rhum.
L'image est peut-être un petit peu forte. On revient toujours à cette écriture. Parce que ça, on superpose deux choses que vous avez vécues à l'époque, le flashback qui vous fait vous remonter dans ce que c'est. Je reviens à cette idée, est-ce qu'on a la tentation de se dire, est-ce que j'étais comme ça? Bon, à vous entendre, vous vous êtes comporté comme une sainte à vos risques et périls pour la deuxième
comme
fois.
Comme un bon petit soldat, je dirais comme pas un comme bon une sainte, mais comme un bon petit soldat, oui. Oui, une sainte, non, ça certainement pas, mais un bon petit soldat, oui.
Est-ce que votre mari a des fois envie de vous dire, écoute, vis un peu ta vie, moi laisse-moi dans mon coin
pendant sa maladie, absolument, oui, tout à fait. Ah oui, ça il me... J'ai d'ailleurs compris qu'il fallait que je lâche à un moment donné, il fallait que je lui laisse sa liberté, que je le laisse être dans sa bulle, en fait. Ça, c'était très important et je me suis sentie même rejetée à un certain moment, alors que ce n'était pas du tout le cas. Mais il avait besoin de se retrouver lui-même et de puiser ses ressources en lui, c'est bien évident. Ça, je l'ai parfaitement compris. Mais bon, j'ai appris beaucoup de choses, donc aussi au niveau de la notion d'aide, comment aider juste, de façon juste.
Mais on dit qu'un médecin ou un chirurgien ne doit jamais opérer quelqu'un de sa famille. Quand on est la femme, on a ce lien émotionnel. On ne peut pas être comme un professionnel de la santé qui, une fois la porte de la clinique fermée, essaye tant bien que mal d'ailleurs de se sortir de l'assujettissement et de la responsabilité. Là, au moment de nouveau où vous écrivez, est-ce que ça vous aide? Et en repassant le fil du chemin que vous avez parcouru, vous dites, j'ai fait plein de bêtises, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai fait toutes les âneries, mais finalement...
Oui, toutes les âneries, ça je suis d'accord, tout à fait. Non, j'ai fait plein de bêtises, mais il y a des choses que j'ai fait juste...
Donnez-en quelques-unes, parce qu'on ne peut pas tout lire.
Des bêtises, mais le côté peut-être trop maternel, nous n'avons pas d'enfants, donc je pense que... Bon, je suis assez maternelle de nature, mais nous n'avons pas d'enfants, et j'ai, à un certain moment, je me suis dit, fais attention de ne pas devenir trop envahissante, mais bon, j'avais le bureau à gérer, j'avais non plus pas énormément de temps, j'étais pas tout le temps en train de regarder souffler mon mari. Je lui ai donné des informations parce que j'aime bien les médecines énergétiques, donc je lui ai donné des informations. Puis après, je lui ai laissé son libre choix. C'était à lui de choisir. Je devais pas m'immiscer. Donc j'ai bien compris où étaient les pièges quand même.
On peut parler quelques instants médecine énergétique. Il y a la médecine traditionnelle. Vous en avez parlé. C'est la chirurgie, c'est la chimio.
La médecine lourde. La médecine lourde.
Quel a été l'apport sans prosélytisme aucun, mais parce que on l'entend bien, on le lit bien, qu'il y a entre autres que Roland parvient à voir sa maladie, à la voir en 3D. On sait qu'il voit des immeubles et des villes en 3D, mais il s'agit de voir en soi.
Oui.
Vous souscrivez au fait que ça aide, si ce n'est pas le traitement principal, ça aide.
Absolument, mais je pense que ces deux médecines, si on peut dire, enfin l'image n'est pas terrible, mais marcher main dans la main, parce que je pense qu'elles sont totalement complémentaires. Parce que le jour où les médecins traditionnels comprendront ça...
Les meilleurs le font, a priori.
Par exemple.
Mais non, j'ai pas assez. Non, c'est vous qui êtes interviewé. Les meilleurs disent que tout ce qui peut. Parlons des meilleurs, je vais parler de mon père qui disait, mais il n'y a pas d'incompatibilité.
Ah oui, bon, c'était probablement un des rares. Je veux dire, bon, ça commence, mais la machine est lourde à remuer. Hein.
Ça me permet de revenir au titre qui est la vue par-dessus tout.
Oui.
On a l'impression qu'il y a une conviction de la part du malade, de votre mari, une conviction de votre part, une conviction générale des médecins ou des médecines alternatives pour aller de l'avant, on va surmonter ça.
Oui, c'est sûr. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à avoir le titre vie, le mot vie dans le titre. Absolument. Ah oui, je crois beaucoup aussi à la pensée positive. D'ailleurs, à ce propos-là, mon mari a beaucoup travaillé par rapport au livre de Simonton, donc ce cancérologue américain qui a vu à quel point la pensée positive et la visualisation créative ou créatrice pouvaient avoir un impact sur le processus de guérison. Donc mon mari a beaucoup travaillé, il a beaucoup dessiné, il a beaucoup exprimé ses émotions et il faisait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il... Il décochait des flèches à ses métastases et ensuite il envoyait ses métastases dans le soleil. C'est très beau. Ouais.
C'est un côté un peu de James Cameron.
Ça marchait.
C'est un clin d'œil à Roland.
Oui, ça a marché. Et puis par exemple, quand la chimio, l'envahissait, il essayait d'imaginer qu'il y avait des rivières de diamants qui coulaient en lui. Enfin, je veux dire, c'est quand même... voilà. Je veux dire, quand on sait que mon mari avait plus que 4 mois à vivre, vous voyez, je trouve que...
Alors, on va vous laisser respirer.
Oui.
Et puis, on va vous écouter parler.
Oui, attendez, est-ce que je peux boire un petit peu d'eau?
Buvez un petit peu.
Juste.
L'exercice consiste à essayer de vous faire lire de certains passages sans en dénaturer le sens que chacun aura compris. On avance dans le temps, l'avantage de votre ouvrage, c'est qu'on est chronologique.
Voilà, tout à fait. Alors là, il s'agit d'un moment où mon mari est en convalescence après sa deuxième opération, donc opération du foie. On lui a enlevé beaucoup de métastases sur le foie. Et voilà, il est en convalescence et je me trouve avec lui à Co à l'hôtel Victoria. Donc, Co, l'hôtel Victoria, tu n'arrêtes pas de dormir. Quoi de plus normal pour un convalescent? Indispensable de te retaper avant d'entamer ton nouveau traitement de chimio au début janvier. Rester enfermé avec toi dans cette pièce à essayer de lire, à faire semblant de sommeiller ou à te regarder dormir me pèse. L'impression que ta maladie m'enserre, qu'elle m'englue, l'impression d'avoir vieilli prématurément. Mon horizon rétrécit. On dirait que ma vie s'est arrêtée aux limites de cette chambre et qu'au-delà de ces 4 murs, il n'y a plus rien, plus d'avenir. J'étouffe. La révolte gronde, je frise l'agressivité. Je réprime ces sentiments si déplacés. Je ravale, je bâillonne, je verrouille. a tant souffert de ma captivité. Je me sens terriblement injuste vis-à-vis de toi. J'ai honte de nourrir de telles pensées. Sur le point de déjanter, il m'arrive de m'absenter, de quitter mon poste pour respirer. C'est vital. Je m'en vais faire quelques pas dans la grisaille, la culpabilité chevillée à l'âme. J'erre sur le parking de l'hôtel, incapable de profiter de cette bouffée de liberté. Je suis plombée comme le ciel. Avant de rentrer, je me force à marcher encore un peu. Et de retour dans notre chambre, au store baissé, où ne filtre que le bruit de ta respiration, je me retrouve à la case départ, piégée. J'ai envie de hurler, d'exploser. J'ai envie de vivre. Puis, je me calme. Je réintègre sagement ma couette. J'anesthésie ma rébellion et j'attends patiemment ton réveil.
Merci, votre enthousiasme est entier, ce qui me permet d'enchaîner sur une autre vision de votre texte. J'ai l'impression qu'on a mis une soixantaine de pages. Est-ce que vous trouviez un style dans votre livre et que tout d'un coup l'auteur apparaît indépendamment du témoignage, par les répétitions, par les adjectifs, où vous prenez votre envol, on dirait que vous prenez votre envol au moment où la maladie est en train de se résoudre. Vous avez eu conscience de ça en écrivant ?
Oui, bien sûr. Tout à fait. Oui.
La preuve, vous l'avez lue avec le ton, comme s'il y avait transposition. Or, non.
Oui, là, je ne sais plus quoi répondre.
Je posais une autre question.
Non, oui, volontiers.
On a l'impression qu'on rentre dans un livre et plus dans un témoignage. On a l'impression qu'on rentre dans un style littéraire.
Je pense que c'est un témoignage, c'est du vécu, mais ça a probablement la forme du roman, parce que je suis quand même littéraire. Donc le style est le style du roman, mais c'est du vécu.
Donc on aura bien compris, une littéraire non académique, mais où tout d'un coup il y a du style. La question brûle les lèvres de tout le monde. Pourquoi ne pas avoir pris la distance de la transposition, de la troisième personne, des personnages? Vous pouviez situer cette histoire dans les pays du Golfe, vous pouviez en faire quelque chose d'autre qui aurait eu, pour nous lecteurs peut-être, le même impact ou un impact différent. Pourquoi la nécessité du « tu » qui est un jeu formidable d'ailleurs?
Écoutez, je ne sais pas, moi que je... Bon, quand je prends trop de distance, vous pensez au roman, bien sûr. Moi, j'ai l'impression, quand j'ai donc écrit quelques romans, il y en a qui sont restés, bien sûr, dans les tiroirs, il y en a un que j'ai publié, j'ai toujours l'impression d'avancer masqué. Mais ça, c'est mon impression. J'ai du mal avec le roman, j'ai du mal.
Jean Sarbinski nous a impressionné à ce point-là, à l'époque.
Oui, je me souviens, j'ai effectivement suivi ses cours. Ça,
Oui. Mais c'est important parce que vous auriez pu ne pas oser vous approcher des fils intérieurs, de vos émotions, de celles de Roland, de ce qui vous arrive. Donc c'est un exercice courageux ou c'est comme ça, ou c'est à la portée de tout le monde sans vous flatter ni vous rabaisser?
Non, je pense qu'il faut oser. Il faut oser, mais moi ça ne me coûte rien. Je veux dire, je fonctionne comme ça. Donc j'ai ce courage-là. J'ai pas mal de personnes qui m'ont dit, mais quel courage. Moi je trouve pas tellement. Bon,
j'aurais dit quel culot plutôt que quel
courage. Peut-être. Je sais pas. C'est venu comme ça. Je veux dire, je calcule pas. Les choses se sont imposées encore une fois et voilà, c'est ça. À la limite, j'ai même pas réfléchi. Je me suis lancée. J'ai pris le sujet à bras le corps et puis ça a donné ça en fait. Voilà.
Alors ça donne ça, mais ça donne pas ça que comme ça. Il faut les rencontres. Il faut peut-être parler de Laurence Diana, notre journaliste qu'on connaît bien à Genève et à laquelle on adresse un petit
clin
bonjour, parce qu'elle était elle-même malade, elle se remet sur pied. Avant d'arriver chez votre éditrice, c'est pas facile comme manuscrit parce qu'on sait qu'il y en a eu beaucoup, surtout d'ailleurs des plus longs, des trop exhaustifs, des moins bien écrits. Comment arrivez-vous chez Eclectica, Estelle Gitta?
Bon, moi j'aimerais encore vous dire quelque chose avant, juste avant, non mais pour vous dire que finalement, oui, effectivement, l'exercice a déjà été fait plusieurs fois, mais j'ai voulu le traiter sous un angle différent quand même. C'est-à-dire que je parle bien sûr de mon mari, de sa maladie, mais j'ai surtout voulu l'axer sur la personne qui est à côté du malade et qui vit, qui vit un combat intérieur important, qui est submergé par ses émotions. Et il y a beaucoup de gens. J'ai aussi voulu le faire pour donner un message d'espoir et pour parler au nom de tous ces gens, et Dieu sait s'il y en a, qui vivent une situation semblable et qui sont ces héros et ces héroïnes cachées. C'est important.
Quand vous dites « tu » dans le style de la lettre, au moment où ça se passe, vous communiquez avec Roland ces émotions-là?
Pas du tout.
Voilà.
Absolument pas. Non, pas du tout. J'ai très peu exprimé mes émotions parce que j'avais peur de le submerger. Donc j'ai retenu mes émotions, j'ai stocké.
Vous connaissez votre tempérament au point de pouvoir vous dire que d'être trop présente, c'est après tout c'est lui qui est malade.
Oui, c'est ça. J'ai fait de la rétention, absolument. J'ai fait de la rétention, ça c'est sûr. Hein. Je voulais pas encore le polluer avec mes propres émotions, c'est vraiment ça. On en a parlé après, et c'est curieux parce que lui m'a exprimé certaines émotions. Il y a son jardin secret, je ne veux pas entrer dedans. On a partagé certaines de ses émotions. Et ensuite, il m'a dit, mais j'aurais tellement aimé que tu me montres davantage tes émotions. Mais on en a parlé après. Donc ça, c'était quand même important qu'on en parle. Mais pendant sa maladie, assez rarement. C'était des regards, c'était tout ce qu'il disait à travers les regards aussi. Hein.
Oui, quand on vous connaît depuis quelques dizaines d'années,
oui.
Et que le couple est toujours là, à quel moment le couple pouvait casser? C'est au moment où vous auriez dit mission accomplie, t'es sortie d'affaires, moi.
Oui, mais j'ai changé ma vie à ce moment-là, parce que j'ai quitté le bureau que je gérais depuis 20 ans. J'ai quitté le bureau, je suis retournée à ma plume. C'était, je vous assure que c'était difficile quand vous travaillez en équipe et que tout d'un coup vous vous retrouvez tout seul devant votre feuille blanche. Mais justement, ça m'a aussi obligée, sa maladie m'a obligée à me rapprocher de moi-même. Vous voyez, donc, parce que je suis quelqu'un, au départ j'étais assez fusionnelle. Et là, j'ai dû un peu conquérir un peu plus d'indépendance. Bon, je suis aussi très indépendante, bon, je suis un peu tout ça à la fois, mais... J'ai dû me rapprocher de moi. J'ai dû me rapprocher de moi parce que j'ai compris que le combat de l'autre, je ne devais pas toujours aller dans le combat de l'autre, mais dans les miens.
Si tu me pardonneras, Roland, tu dois être quelque part. Est-ce que l'autre a compris ça? Parce qu'il aurait pu.
Il a très bien compris. Oui.
Parce qu'il aurait pu très bien dire, elle lâche, elle se débine un petit peu. C'est pas facile quand on a été le héros victorieux d'un combat contre une maladie mortelle et que tout d'un coup le soignant a des états d'âme et doit se rapprocher de lui. C'est une passe qui n'est pas facile à négocier non plus. Hein.
Oui, mais non, je crois qu'il a il a tout à fait accepté que je prenne cette indépendance.
La preuve, hein.
Oui, la preuve, il est toujours là. Oui, on est toujours ensemble. Non, mais c'est vrai. Ça, je pense qu'il a très bien compris. C'était mon schéma à moi, je veux dire. Hein. C'était mon schéma de départ, hein, de toujours m'occuper. C'est très facile aussi, hein, de s'occuper de l'autre. Comme ça, on regarde pas ce qui est. D'abord, on regarde pas ce qui est à l'intérieur. On s'occupe pas de soi. J'ai dû tracer mon sillon, vraiment.
Quand vous écrivez, vous faites lire ou vous lui dites je t'appelle dans tant de temps, je te fais un print ou je t'envoie un PDF et tu verras ce que tu en penses.
D'abord, je lui ai demandé son avis pour savoir s'il était d'accord que j'écrive ce livre. Hein, ça, il faut le préciser. Et puis ensuite, avant de le proposer à des éditeurs, je lui ai fait lire le manuscrit. Ça, c'est sûr. Attendez,
maintenant j'ai. Je lui ai dit, maintenant tu vas retirer le tu, tu changes le prénom, tu transposes.
Oui, j'aurais été bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas jusqu'à quel point j'aurais fait la concession. Ça, je ne peux pas vous répondre.
C'est difficile.
Oui. Mm-hmm. Ça, je ne peux pas dire. Mais
donc, il est admis quand c'est fait et vous dites, tu lis.
Oui.
Sa réaction.
Oui, mais. Oui, bah, écoutez, oui, bon, il a beaucoup pleuré. Ça m'a beaucoup touchée. Il a énormément pleuré.
Vous déroulez le fil d'une histoire tragique,
oui.
Même si elle finit bien.
Bien sûr, il a beaucoup pleuré. Mais pour revenir à l'avis de Roland par rapport à d'autres manuscrits que j'ai pu écrire, je ne le fais plus parce qu'il suffit qu'il soit fatigué, qu'il rentre d'une journée où il a eu beaucoup de problèmes au bureau, etc. Je lui donne une page à lire, il va la lire gentiment, puis il va tirer une tête épouvantable. Donc ça, je me fais terminer, ça, je ne fais plus. Ça coupe mon élan, ça me coupe les ailes, ça, c'est fini. Non, je donne à lire après. Donc j'ai donné effectivement aussi mon manuscrit
au premier après l'apéro, voilà, Laurence Deonard, ah, oui, qui était sans complaisance. Votre éditrice, Estelle Gita, oui. Bien conseillée par Laurence Deonard, va vous lire et se dire il le faut dans mes livres, ou bien elle vous dit oui, je me demande.
Non, pas du tout. Elle a montré un enthousiasme qui m'a beaucoup touchée. Et elle a surtout, ce que j'ai adoré par rapport à l'attitude d'Estelle, c'est qu'elle n'a pas voulu, elle m'a rien demandé de modifier. Alors que les éditeurs vous disent non, mais il faudrait un petit peu transformer ceci, puis un peu cela, puis chacun il va de sa sauce. Et puis pour finir, vous dénaturez complètement le livre.
Mon petit doigt m'a dit qu'Estelle s'entoure d'auteurs qui n'aiment pas trop changer les choses. Mais oui. Bon, vous le confirmez.
Non, j'ai vraiment, elle m'a laissé une liberté que j'ai infiniment appréciée.
Ce qui est rare, peut-être que la banlieue parisienne, changer le ton, change le début, on change la fin.
Absolument, on change tout, puis pour finir, c'est un livre qui est totalement différent et vous n'avez même plus envie de quoi que ce soit, de le transformer.
Vous savez qu'on peut retourner la maxime du poète, non pas je meurs où je m'attache, mais je vis où je m'attache, pour aller avec votre roman. On va s'approcher de la fin du traitement, si vous voulez bien, toujours pour vous laisser respirer et vous écouter encore.
D'accord. Je vais boire un petit goutte d'eau. La fin de ton traitement approche. Les cellules malignes se sont fait la malle. Le printemps est là. Onde jaune et rouge des jonquilles et des tulipes dans le jardin. Le chahut des oiseaux gonfle les arbres et les buissons. Dentelle de champs mêlés. Frémissement. Senteur. Première odeur d'herbe coupée. Une nouvelle vie. La lumière met l'ombre en déroute, lave ton regard nébuleux, troublé par les chimios. Fin avril, nous fêtons ta rémission. Avec ton accord, je jette tous les médicaments qui traînent dans la cuisine. Nettoyage de printemps. J'aère la maison, je provoque des courants d'air. Le vent glisse sur nos âmes cabossées, emportant la tristesse. Je racle, je frotte, je brosse, j'aspire, je cire pour éradiquer cette odeur de chimio et de corps malade qui s'est incrustée partout. Je chasse le malheur à grands coups de balai. Je ponce les vieilles douleurs, les tiennes, les miennes. J'arpente toutes les pièces avec un brûle-parfum d'où s'échappe la fumée purificatrice de la sauge indienne. Je traque les ondes négatives dans tous les coins et recoins. J'essaye de gommer la mémoire des murs. Peu à peu, l'impression que je respire mieux.
Alors là, on aurait pu vous écouter plus longtemps d'ailleurs, mais
voilà.
On a pas mal de choses à dire. Là, vous êtes résolument dans le style, on sent que c'est évident que vous êtes libéré. C'est plus facile à écrire la fin, une fois qu'on sait qu'on a le ton, qu'on va vers les jours plus heureux, vers le soleil, vers la vie.
Oui et non, parce que justement, il faut pas non plus être trop lyrique. C'est de nouveau une question de ton. Je ne sais pas si c'est plus facile. Non, c'est un exercice différent, mais je ne sais pas si c'est plus facile. Parce qu'on aurait peut-être tendance à devenir un petit peu lyrique, ce que je crains. Je crains le lyrisme, bien que j'ai écrit des textes lyriques à un moment donné, mais je le crains beaucoup maintenant.
L'aventure donc s'est bouclée il y a quelques mois, puisque votre livre est sorti au début du printemps de cette année, ou le temps passe?
Non, il est sorti, il est sorti en automne 2010.
Une année. Réaction, les médias, les journalistes, les gens, les interviews, votre entourage, vos amis, ceux qui ne vous connaissaient pas.
Oui.
Comment vivez-vous le après?
Bah écoutez, c'est très positif parce que j'aime la solitude de l'écrivain, mais j'adore le partage et la communication. Donc j'aime aussi beaucoup cette phase où je peux parler avec les gens, où les gens viennent me parler, m'envoient du courrier, je réponds toujours à leur courrier, enfin pour le moment, parce qu'on ne sait jamais, une fois peut-être je ne le ferai plus, mais j'aime cette phase de partage et je dirais que les gens réagissent de façon extrêmement, extrêmement positive.
Qui réagit en vous? C'est l'auteur ou bien la femme qui a vécu cette aventure?
Je vais vous dire les deux, je vais vous faire une réponse un peu. Mais je pense que c'est aussi beaucoup la femme qui a vécu cette aventure, peut-être un peu plus, mais c'est les deux.
On va simplifier la réponse en disant que les personnes qui vous écrivent sont peut-être celles qui sont en demande du contenu, pas tellement de la forme du texte.
Je ne sais pas, non, parce qu'on m'a aussi, beaucoup parlé justement de la forme, du style, les gens ont aimé le style, donc je ne sais pas, oui, et je crois que c'est vraiment l'auteur, c'est les deux, oui.
Qu'est-ce qui a bougé en vous depuis une année, depuis que le livre est fait, que ça s'éloigne
en, justement, en tant que tel. Ça s'éloigne et c'est le fait que justement j'ai l'impression d'avoir clos un cycle avec ce livre. Je vais vers des choses entièrement nouvelles,
On va parler de vos projets. Voilà, voilà. Là, c'est la dernière, Roland. Alors, on va trinquer tout à l'heure et puis on passe à une étape suivante, c'est ça que vous nous dites?
Oui, alors attendez, il y a quelque chose que j'aurais bien voulu placer. Donc
ah, placer.
Il y a une phrase que j'adore, que j'avais vraiment envie de citer ce soir. C'est une phrase de Michel-Ange par rapport à la création en général, on va dire. Bon, bah, lui, bien sûr, étant sculpteur, peintre, architecte, etc. Mais je crois que ça s'applique à la création en général. C'est une phrase sublime et d'une humilité exceptionnelle. Et je crois que c'est vraiment l'humilité, c'est une qualité que nous, artistes, on devrait vraiment avoir. Et c'est, attendez, j'ai vu un ange dans le marbre et j'ai simplement, donc, ciselé pour l'en libérer. Je trouve que cette phrase, elle me met du baume au cœur tous les jours parce que je l'ai collée sur mon réfrigérateur. Je la vois tous les jours.
Bon, alors quel est l'ange, quel est le prochain que vous avez vu et dans quel marbre?
Alors écoutez, vous parlez de la suite donc, de mes projets. Oui, alors tout d'abord, Estelle va rééditer le livre que j'ai écrit sur l'Arabie Saoudite il y a à peu près 33 ans. Elle va le rééditer, donc ce livre, pour être rapide, c'est donc mon expérience, enfin notre expérience, parce que mon mari est toujours dans mes livres finalement, notre expérience de vie, mais axée sur la femme, en Arabie Saoudite pendant 3 ans et demi. Et puis, ce que je vais faire, parce que c'était un défi intéressant, donc nous allons aller, mon mari et moi, nous allons retourner en Arabie Saoudite après 33 ans, donc au mois d'octobre. Et puis là, je vais avoir un choc incroyable et je vais écrire une partie, une sorte d'épilogue sur ce Jeddah que j'ai vécu 33 ans après.
Et alors, pendant ce temps-là, Roland, il va aller voir si ces maisons tiennent toujours.
Oui, c'est possible, ces palais, les palais, puisque il faut dire que Roland était l'architecte. Maintenant, je peux le dévoiler, il y a la prescription du Cheikh Yamani, donc on a vécu des choses absolument extraordinaires. C'était vraiment une expérience fantastique. Ouais. Et puis, à part ça, j'ai plein de projets. Après, il faut choisir, c'est ça la difficulté. Il faut choisir, mais bon, j'ai de toute façon un sujet. Bon, il y a plusieurs sujets, puis après, il y en a un qui vient vraiment vous habiter, qui vient vraiment... je veux dire, il y a des sujets qui s'emparent de nous, donc il y a un côté violent, puis il y a des sujets qui s'insinuent tout en douceur, mais il y aura un sujet qui va ressortir de là. J'ai aussi quelques clips que je vais faire, là. Alors, c'est nouveau pour moi.
Vous lancez de la bijouterie? Non.
Ben, on espère. De toute façon, l'écriture, c'est de l'orfèvrerie. Donc,
nous tâcherons de vous conseiller sur ça. Vous aviez dit que tout à l'heure que vous avez pas mal de manuscrits dans vos tiroirs. Est-ce que vous avez, parce que vous êtes quand même, vous devenez pas spécialiste, mais vous faites des flashbacks, vous revivez une expérience que vous livrez, vous retournez à Jeddah 33 ans après, vous allez revisiter vos textes. Oui. Est-ce que vous avez des manuscrits, enfin quelques joyaux, quelques chefs-d'œuvre dans vos tiroirs?
Je ne sais pas si ce sont des chefs-d'œuvre, je n'ai pas l'impression, non vraiment. J'ai deux romans dans les tiroirs, mais de toute façon, ils resteront dans leurs tiroirs. Ils finiront leur vie dans les tiroirs, parce que c'est tellement ancien, que c'est tellement plus moi que je ne vais pas aller les rechercher. J'ai plein de descriptions poétiques, j'ai des textes sur Paris, j'ai plein de choses dans mes tiroirs, mais on verra.
Il y aura
des occasions, on verra. Moi, je suis ouverte en tout cas, je me sens pleine de créativité et très très enthousiaste à l'idée de tous ces nouveaux projets qui pointent leur nez.
Vous avez le temps de lire les autres? C'est la rentrée littéraire?
Absolument, absolument. Je lis très très tard et je m'endors sur mes livres en général. Mais
ça, c'est la règle.
Oui, c'est la règle. Non, je lis beaucoup. Par contre, quand j'écris, je lis moins. Maintenant, j'écris pas. Maintenant, en ce moment, j'écris pas tellement. Non, je n'écris pas du tout même.
Et vous me disiez, quand on a préparé cet entretien, vous ne vous étiez inspiré de rien, pas lu d'autres. Quand vous partez à l'aventure de votre écriture.
Oui.
les livres sont fermés, à livres fermés, de manière là assez académique, pas de modèle, vous n'êtes pas allé relire des témoignages d'autres gens, si ma mémoire ne me trahit pas, vous n'êtes pas allé lire ce que d'autres auraient écrit comme
vous. Ah non, pas du tout, d'abord j'ai envie d'avoir un regard neuf, j'ai pas envie, c'est comme quand j'ai rédigé mon mémoire sur Albert Camus. J'avais choisi le thème des paysages, du décor dans l'œuvre d'Albert Camus, ça n'avait quasiment pas été fait, et j'ai refusé de lire des critiques. Ça, je voulais faire quelque chose de personnel, je suis très entêtée, et puis j'ai eu du mal à le faire admettre par les professeurs de l'université, mais finalement j'ai quand même trouvé un directeur de mémoire.
Et puis une dernière question là qui vous relie votre mari et vous. Vous oui. avez dit, on sait qu'il a un certain coup de crayon, vous avez dit qu'il a produit. Est-ce que vous avez l'ambition d'éditer ce qu'il a pu dessiner, ce qu'il a pu créer, ce qu'il a pu faire?
Vous voulez dire pendant sa maladie? Parce qu'il a, il fait des aquarelles absolument
magnifiques. Mais oui, c'est bien tout
là. Voilà.
Est-ce que c'est des choses qui sont en l'air et...
Éventuellement, on avait un petit projet, j'avais écrit des textes sur Paris, il avait fait des petits dessins à la plume, on l'a pas encore réalisé. Ça se fera peut-être une fois, mais oui, il y a quelque chose comme ça. Il y a bien quelque chose qui va s'incarner, c'est sûr.
Alors, je vais renverser la phrase. La règle sera qu'on passe un micro dans la salle pour poser des questions, mais la règle veut qu'on vous applaudisse pour le témoignage que vous nous apportez. Ça vous laisse le temps de voir. Qui se promène, je ne sais pas qui est au micro.
Je voulais aussi dire que Roland répondra volontiers à certaines de vos questions si vous le souhaitez.
Non, on le souhaite. Alors, qui veut s'exprimer, lève la main et puis on vous passe un micro-metteur. Voilà, prenez le micro parce que si nous vous entendons.
Je peux la voir.
Madame, écoutez-moi, juste, je mène le débat. Je vous demande de prendre le micro parce que les gens qui sont là-bas ne vous entendent pas. Quand bien même vous avez une bonne voix. Le micro monte jusqu'à vous et au fond de la salle, parce que la salle est pleine, on pourra vous entendre.
Oui, bon, très bien. Alors moi, c'est à votre sujet que je voulais parler.
Dites-moi.
Oui,
mais je suis pas...
Oui, c'est... Très bien. Mais c'est vous, vous avez parlé d'exhibitionnisme et de culot.
Oui, bravo.
Alors là, ça m'a beaucoup vexée parce que vous avez oublié l'artiste.
Oui.
L'artiste qui a tous les droits. D'accord.
Ouvrons le débat. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, je suis d'accord. Alors, dans le sens que oui, toute la liberté est totale.
Mais bien
oui, la liberté de l'artiste est totale. Je suis d'accord, Josette. Bon, Josette est comédienne. Elle sait de quoi elle parle.
Alors, c'est pour ça que je trouve vous êtes très dur.
Mais c'est vrai, on doit avoir toute la liberté. Alors, moi, je voulais dire que pour moi, l'écriture, c'est
Je disais pas culot vis-à-vis de nous, c'est du culot vis-à-vis de toi, se dire
culoter. Écoutez, le mot culot, il est quand même dit. Hein.
Il est dit.
Voilà.
Et je voulais dire dans ce sens-là. Oui, mais le culot par rapport à soi.
Oui, d'accord, mais c'est la même chose. Vous avez oublié le mot artiste.
Je ne crois pas.
Vas-y,
Dominique.
Je sais pas, moi c'est dans ma nature hein, d'être un peu culotté, d'être un peu...
Ah oui, mais c'est l'artiste. Il s'exhibe.
Oui, oui.
Ah oui.
Oui.
Il va toujours sur une corde raide.
Mais je suis culottée.
Mais je suis obligée de répondre, Dominique. Je parle de la vie. On exhibe le cancer de son mari, on s'exhibe. Le culot, c'est d'en parler. Un artiste transpose. Shakespeare a écrit beaucoup, Julien Crac. C'est ma question. Oui. Et si vous m'avez écouté attentivement, et je ne doute pas que vous l'ayez fait, c'était de demander à Dominique pourquoi avez-vous choisi de dire la vérité telle qu'elle est et de ne pas avoir transposé. Mm-hmm. Tout est là. On ne transpose pas sur scène ce qu'on fait dans sa cuisine ou dans sa chambre à coucher. C'était dans ce sens-là, je pense qu'on va se comprendre. Là. C'est vraiment votre vie et ça peut être... Il faut être culotté pour s'exhiber à ce point-là. Je maintiens.
Je m'excuse, mais il faut être artiste.
Pas forcément.
Je crois.
On passe le micro parce que le but, c'est pas j'argumente moi, c'est pas moi qui suis sur scène cette fois-ci. Mais merci pour votre question. Oui. Avez-vous des idées? Avez-vous des. Lançons le débat, puisque le livre est au cœur de ce débat. Merci de susciter la controverse. Monsieur, madame, jetez-vous, hein.
Ah oui, ayez du culot.
C'est une connotation alors.
Madame, allez-y, faites passer le micro.
Moi, je vous remercie pour les questions que vous avez posées. Parce que la complaisance fait que la personne va explorer toujours les mêmes parties d'elle-même et vous n'avez pas été complaisant. Et moi, je trouve, Dominique, que les réponses, enfin, tout ce que j'ai entendu, je te connais un peu et depuis longtemps, et ça a renouvelé l'écoute. J'ai découvert de toi des choses riches, encore plus que ce que je connais. Moi, je voulais vous remercier, monsieur, parce que vous
y êtes pour
quelque chose.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci.
C'est pas le but non plus. On tarde de quand même. Ce soir. D'autres questions? D'autres questions à Roland qui est là aussi et...
Vous avez... Madame.
Bonjour Dominique. Bonjour Catherine. Dis-moi, lorsque ton livre a paru,
oui.
Est-ce que quand tu l'as vu sur toutes les étagères des librairies et dans les mains de tes amis ou même du public de manière générale,
oui.
Est-ce que tu n'as pas été... Est-ce que tu ne t'es pas sentie un peu violée? Découverte ou dénudée?
Non, parce que j'ai décidé qu'il en soit ainsi, donc, oui. Donc je m'attendais à ça. Puis disons, c'est pas non plus ma première expérience d'être lue.
Oui.
Donc non, je dirais que non.
Mais c'était une expérience quand même assez intime.
Oui, mais encore une fois, ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime l'intime et ça ne me dérange pas. Alors bon, évidemment, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui détestent. Bon, tout le monde a le droit d'avoir bien sûr son avis. Mais ça ne m'a pas... Non, pas du tout. Bon,
bah, tant mieux.
C'est bizarre, mais c'est comme ça.
Tant mieux.
Alors, je précise aussi que Dominique va descendre devant vous pour signer son ouvrage, que si vous avez des questions plus personnelles à lui poser, vous pourrez le faire. C'est toujours intimidant de parler en public, quoi qu'ils se disent tout et quoi qu'on ait à répondre. Et puis, je crois qu'il y a des libations qui nous sont offertes par Roland.
Alors, par Roland, oui,
on va revenir, non seulement d'être là, d'être le héros. Et pour conclure, puisque c'est peut-être, il y a peut-être plus de questions intimes que de questions littéraires, vous y êtes habitué, je le suis aussi.
Oui.
Et non, c'est un clin d'œil pour Roland, je vous connais tous les deux depuis 40 ans, l'exercice n'était pas simple. C'est que dans la tradition du roman, on ne tue pas le héros. Merci d'avoir survécu, Roland, et d'être avec nous. Merci beaucoup.
Bravo, merci Daniel.